On part d'abord au Japon pour la chronique à la une. En Asie, le Japon célèbre aujourd'hui un triste anniversaire, les 30 ans de l'attentat du métro de Tokyo au gaz sarin. Attentat perpétré par la secte Aum qui a fait 14 morts, 6300 blessés, la plupart grièvement. On retrouve à Tokyo Bruno Duval, notre correspondant. Bruno, 30 ans après, les victimes ont encore des séquelles liées à l'inhalation de ce gaz toxique.
Oui, c'est le cas de 60% des victimes de cet attentat. Écoutez d'abord Ikuno Morise, qui était dans une des rames de métro attaquée par Aum. Puis le docteur Shinichi Nishimatsu, qui soigne de nombreuses personnes qui furent intoxiquées par le sarin.
Tout à coup, j'ai eu terriblement mal aux yeux, ma vue s'est brouillée. J'ai commencé à avoir des palpitations et puis aussi des difficultés à respirer. J'ai alors compris que quelque chose de très grave était en train de se passer et que je devais donc absolument sortir de cette rame le plus vite possible, sinon je risquais d'y mourir. Depuis, j'ai régulièrement des problèmes respiratoires, oculaires ou musculaires et une fatigue chronique terrible qui me cloue souvent au lit. J'essaie de garder le moral en me disant que je suis en vie et que peut-être des jours meilleurs sont à venir.
L'état de santé de la plupart de mes patients évolue grandement du jour au lendemain et de manière toujours imprévisible. C'est bien sûr très déstabilisant pour eux au quotidien, donc ils nécessitent un soutien constant, un soutien physique, mais aussi psychologique, leur santé mentale étant très affectée par une souffrance aussi interminable.
25% des victimes de l'attentat souffrent de stress post-traumatique. Par exemple, elles ont la phobie des transports publics ou des lieux bondés, des gares et des stations de métro aux heures de pointe, par exemple.
Le ministre de la Justice vient de lancer un appel solennel à la vigilance, car 30 ans plus tard, Bruno, la menace d'Aum demeure.
C'est ça, car trois groupes lui ont succédé. Il compte environ 2000 adeptes, dont une majorité de jeunes, qui n'étaient pas nés en 1995, donc n'ont pas vécu cet événement. Ces sectes les attirent en leur proposant ce qu'elles présentent comme des cours de yoga ou de méditation transcendantale, ainsi que des ateliers dits de développement spirituel. Autant d'activités qui sont parfaitement légales, donc ces groupes ne peuvent être interdits, juste très étroitement surveillés. L'impunité de ces sectes s'explique aussi par la constitution japonaise qui sacralise la liberté de culte. C'est dû au fait qu'elle date de 1947 et qu'à l'époque, elle fut rédigée sous la dictée de l'occupant américain, qui exigea que la liberté de religion y figure noir sur blanc, car à partir du milieu des années 20, le Japon avait connu une dérive à la fois nationaliste, ultra-conservatrice et militariste, pendant laquelle les autorités avaient interdit toutes les activités cultuelles, sauf celles liées à la religion ancestrale du pays, à savoir le shintoïsme, qui dans les faits devint la religion d'État. Les sectes tirent profit de cette constitution qui restreint les possibilités d'intervention des autorités en matière de culte. Et elles prolifèrent comme jamais. On dénombre désormais 183 000 mouvements religieux dans l'archipel. Au total, 10 à 20% des Japonais affirment croire en des religions dites « nouvelles » ou « alternatives ».
À la une, en Asie, avec Bruno Duval à Tokyo.